Bonjour et bienvenue sur Doula Lire, le podcast qui informe par une doula qui écoute. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais tout le monde n'aime pas lire, tout le monde n'a pas le temps de lire. En revanche, un podcast, ça s'écoute facilement. Vous pourrez donc retrouver ici, très simplement, le meilleur de chaque ouvrage en périnatalité qui me passera entre les mains. Libre à vous ensuite d'aller creuser plus dans l'ouvrage originel. Bienvenue dans ma bibliothèque en périnatalité. Bienvenue sur Doula Lire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai lu pour vous Naître ici, guide de la naissance respectée de Julie Toutain aux éditions Mama Édition. Julie, elle a eu 2 enfants dans des circonstances assez particulières, vous les découvrirez dans le livre. Et du coup, elle s'est redirigée vers l'accompagnement. Elle est devenue doula avec la promotion de l'Institut de formation des doulas de France en 2018. À la suite de ça, elle a accompagné de nombreuses femmes et elle s'est rendue compte de l'infantilisation qui était encore présente et des menaces qui pesaient souvent sur les femmes enceintes, à l'accouchement et allaitantes, etc. Elle a donc décidé de répandre un peu plus les connaissances et son expérience grâce à ce livre. Au niveau du livre en lui-même, alors, il y a une partie sur vraiment la naissance, avec tout ce qui va être la physiologie, de la préconception au relevail, etc. Donc vraiment très complet. Les choix de son accouchement, le fait qu'il faut connaître ses droits et quels droits avons-nous, etc. Tout ce qui est l'industrialisation de la naissance, avec tous les protocoles d'hypermédicalisation qui existent en France, notamment. Il y a un super beau cahier photo. Vraiment, les photos sont magnifiques. Elles sont splendides sur la grossesse, sur l'accouchement. C'est vraiment magnifique. Et enfin, des témoignages qui sont d'une puissance et d'une complexité parfois impressionnantes, mais qui restent magnifiques. Alors du coup, elle commence par rappeler que la naissance, c'est un acte sacré et primitif, sacré dans le sens qu'il mérite tout notre respect. Ça n'a rien de spirituel, mais vraiment, c'est quelque chose qui doit être respecté, parce que c'est quelque chose de magnifique. Dans la première partie, elle fait également un gros rappel sur la fertilité, les cycles de la femme, tout ce qui va être rappel également du fait qu'il y a 2 phases principales dans le cycle, donc la phase folliculaire, le follicule se prépare à libérer un ovocyte, la phase ovulatoire où il libère son ovocyte, qui sera fécondé ou non selon les rapports, les contraceptions qu'on a, etc. Et enfin, la phase lutéale, donc soit il y a eu conception et la phase lutéale, elle va servir à lancer cette grossesse, ou il n'y a pas eu conception et la phase lutéale va servir à désagréger cet ovocyte, ce qui nous mènera aux règles. Ensuite, elle nous parle également de la grossesse avec tous les bouleversements que cela engendre. Ça va vraiment tout modifier, ça va modifier le corps, ça va modifier le rythme, puisque la fatigue sera intense, notamment les 3 premiers mois, mais également par la suite. Les hormones qui vont venir tout perturber, autant les émotions que le corps humain en général, avec pour exemple banal, les nausées. La réalité de la grossesse, puisque qu'on la veuille ou pas, ça va vraiment venir travailler aussi au niveau cérébral. Qu'est-ce qu'on en fait cette grossesse? À quoi ça va nous mener? Et quelle vie on va avoir après avec ce bébé ou cette absence de bébé si on choisit d'arrêter cette grossesse? Mais dans tous les cas, ça va vraiment remuer le cerveau, quoi. Il y a eu des études qui ont montré, alors c'est pas dans le livre, mais qu'il y avait vraiment des modifications au niveau cérébral, physique, j'entends. Donc vraiment, ça perturbe tout, ça bouleverse tout, sans compter les maux divers, donc l'hypersomnie, les seins qui sont énormes et qui font mal, les nausées, etc., qui n'arrangent rien du tout. Une grossesse, finalement, ce serait comme vivre la vie d'une autre, tellement tout est différent, quoi. Elle rappelle également le fait qu'il est imposé par la société comme un conditionnement populaire de taire sa grossesse les 3 premiers mois. J'en avais déjà parlé dans le livre « 3 mois sous silence ». Qui est vraiment un must-have sur cette catégorie-là, sur le fait de taire sa grossesse les 3 premiers mois. Et elle rappelle vraiment que ça doit être un choix, enfin, c'est important. On ne doit pas faire comme les autres. Hein. C'est pas parce que tout le monde dans sa classe veut devenir astronaute qu'on n'a pas le droit de devenir danseuse étoile. Bon, et ben c'est pareil pour ça. C'est pas parce que tout le monde tait sa grossesse les 3 premiers mois qu'il faut taire sa grossesse les 3 premiers mois. Et enfin, un gros point vocabulaire, comme d'habitude, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Elle parle du fait qu'il serait très important que les soignants, mais également les proches, revoient leur vocabulaire et évitez les vous devez ou vous ne devez pas et remplacez par vous êtes capable et vous pouvez. Ce qui devient quand même beaucoup plus sympathique et qui redonne confiance en soi, qui redonne de l'estime de soi, etc. Ce qui permettra une meilleure grossesse, un meilleur accouchement, etc. Bref, comme d'hab. Au niveau de l'accouchement, un gros chapitre. Donc déjà, elle réexplique les phases de l'accouchement avec la maturation du col sur le dernier mois, les 3 derniers mois selon les femmes. La dilatation, donc qui va de 0 à 10 et qui peut commencer bien avant l'accouchement, hein. Ou l'accouchement peut commencer bien avant le jour J, bref, vous le voyez comme vous voulez. L'expulsion ensuite, donc vraiment la partie c'est ouvert à 10 et maintenant il sort. Et ensuite la délivrance, donc le bébé est sorti mais le travail n'est pas fini, il reste le placenta. Au niveau du coparent, on parle rarement du coparent et c'est bien malheureux puisque le coparent a tout de même un gros rôle, notamment de présence, si sa présence est souhaitée par le coparent et par la personne qui accouche, hein, c'est important, souhaité par les deux. Mais si la présence est souhaitée par les deux, c'est important qu'il prenne conscience qu'il n'aura pas d'action, enfin, il sera en inaction complète et il va voir peut-être, potentiellement, la personne qui accouche avoir mal. Et juste, il devra lui dire que tout va bien, que c'est OK, en fait. Et c'est très dur pour quelqu'un, mais qui que ce soit, encore plus pour une personne quand on est face à une personne qu'on aime, de se dire, OK, il a mal et je ne peux rien faire. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Donc, c'est vraiment important que le coparent ait cette conscience qu'il sera inactif et que c'est très bien comme ça. Sinon, il y a des dérives du type... Ah oui, mais si elle a trop mal, je lui ferai prendre la péridurale parce que je vais quand même pas la regarder souffrir. Oui, mais si ce n'est pas le choix de la personne qui accouche que de prendre la péridurale, c'est quand même super dégueulasse de sa part. Au niveau des conditions idéales d'accouchement, rien de nouveau, mais toujours bon de le rappeler. Et d'ailleurs, ce livre là-dessus est très complet parce qu'il fait des rappels sur tout. Ça va être la température environ à 25-27 degrés pour que la personne qui accouche soit bien. Qu'elle puisse être nue, puisque c'est vraiment un moment de reconnexion à son instinct mammifère et que les mammifères ne s'habillent pas. Donc ça va être assez instinctif, souvent les personnes qui accouchent vont se déshabiller. Donc important qu'elle ne soit pas au froid. Un milieu plutôt sombre, avec soit des lampes à sel, des bougies, etc. Alors les bougies, toujours sous surveillance, la lampe à sel finalement, c'est pas mal. Ou au pire, la veilleuse qui a été achetée pour le bébé, vous savez, les nounours là. On évite de mettre le son, s'il vous plaît, mais voilà, un nounours qui fait de la lumière, c'est très bien. Limiter les va-et-vient, alors en fait, limiter le mouvement, hein, mais c'est sûr que la sage-femme, et puis l'auxiliaire puéricultrice, et puis les 3 stagiaires, et puis le gynécologue, s'ils font un aller-retour toutes les 10 minutes chacun, ça en fait du monde dans la salle. Hein. Et du coup, forcément, un respect de l'intimité avec justement réduire au maximum le nombre de personnes qui peuvent rentrer, sortir, mais que ce soit également à domicile. Hein. C'est-à-dire que si la personne qui accouche a choisi d'avoir sa famille au grand complet, s'ils font tous des passages dans la pièce, il y a un moment, je pense qu'elle va demander à ce qu'ils soient tous virés, quoi. À l'heure actuelle, les accouchements du coup sont beaucoup plus respectés s'ils ont lieu en maison de naissance ou en plateau technique parce que le suivi est global. Donc la sage-femme connaît la personne qui accouche, elle connaît ses choix, elle connaît sa façon d'être, sa façon de procéder, etc. Donc ça va vraiment induire un accouchement beaucoup plus respecté. Et puis après, le must, c'est forcément l'accouchement à domicile parce qu'en plus d'avoir une personne. Une sage-femme que nous connaissons, il y a aussi le fait que nous sommes chez soi, donc dans un environnement vraiment connu, etc. Ce qui incite beaucoup plus à lâcher prise. En termes de non-respect de la femme, on atteint toujours des sommets avec les interdictions de boire ou de manger, sachant qu'une étude qui a été faite par les infirmières à The American College of Obstetricians and Gynecologists, personne ne se moque de mon accent, merci, qui a prouvé qu'il n'y avait pas de majoration des risques à manger et boire et que les contractions étaient surtout plus efficace avec du coup un travail moins long. Je vous incite à parler tous de cette très très belle étude, dont je vous mettrai le lien. Au niveau de la douleur, il y a un conseil qui est génial et que je n'avais pas encore lu. La douleur, elle n'est là que maintenant. C'est-à-dire que si on se projette que, oh là là, mais ça va encore durer 8 heures et je vais encore souffrir pendant 8 heures, franchement, on prend la, enfin, moi, à la place, je prendrai la péridurale de suite. Et c'est bien ce qu'elle dit dans le livre. Alors que si on est dans le vivre maintenant, ok, donc maintenant j'ai mal, ok, mais normalement, en fait, il y a aussi le plaisir qui inhibe la douleur. Or, l'ocytocine, c'est l'hormone du plaisir. Donc, plus on va être dans l'instant présent et dans l'ocytocine avec le plaisir, et moins la douleur sera présente. Ce qui est quand même pas mal. On continue du coup et on passe la phase d'expulsion, la phase de délivrance au niveau du placenta. C'est important alors de considérer ça comme une réelle étape de l'accouchement. C'est pas juste on en a fini et ah oui, on a oublié un truc. Et rappel sur le clampage du cordon. Alors déjà, on oublie, hein, c'est pas le père qui va séparer le bébé de la mère. C'est le père qui va séparer le bébé du placenta éventuellement si il y a clampage à ce moment-là. Mais surtout pour que le bébé soit oxygéné au maximum, notamment pendant la période d'adaptation. On lui demande quand même de passer du stade aquatique au stade. Alors, je veux pas dire, mais chez le tétard, ça lui prend 15 jours de passer du stade aquatique au stade aérien. Alors, si nous, chez l'humain, ça doit nous prendre 2 minutes, on peut peut-être se permettre, et même 5, hein, on peut peut-être se permettre de laisser ce putain de cordon intact pendant 5 minutes, histoire qu'il fasse sa transition tranquillou loulou. Ça lui permettra d'être bien oxygéné et d'éviter qu'il y ait des séquelles. C'est pas si mal sur le concept. Et sachant qu'il reste à la naissance du bébé environ un tiers de son sang dans le placenta, c'est assez sympa de lui permettre de le récupérer. Après la naissance, le plus important, ce sera le contact mère-bébé. Et ça, pas forcément en peau à peau. On l'a vu la semaine dernière avec le biological nurturing, je vous le rappelle. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez y aller. Et c'est vraiment important que la mère soit en contact avec son bébé. Parce que du coup, au niveau de son corps, il va y avoir toute la régulation de température pour le bébé. Il va y avoir la mise en place de la vie extra-utérine, mais comme dans l'utérus du bébé. Donc avec un relationnel qui va se développer, mais également un début d'allaitement, puisque c'est là vraiment dans les 48 premières heures que l'allaitement va se mettre en place, et de leur rythme à tous les deux qu'il va falloir prendre. Et ça, c'est le début. C'est les 48 premières heures qui sont fondamentales pour prendre ce rythme et cette nouvelle relation en main. On entend souvent le mot mama toto. Alors, c'est un mot swahili qui vient de l'Afrique de l'Est, donc, et qui désigne la période qui suit l'accouchement. Donc environ les 40 premiers jours pour la mère et le bébé. L'équivalent du mot en français, ce serait maman-bébé, mais en fait, ça désigne une période. Donc c'est important. Ça désigne globalement la période des relevailles en France que nous avons perdue, hein, entre les guerres et la mise en place du travail pour les femmes depuis le début des années 1900. Bah, les relevailles sont tombées à l'eau. C'est con, mais c'est comme ça. C'est donc très très important bah, de maintenir un cocon avec bah, de la chaleur, l'intimité, la lenteur, la douceur. Bref, comme pendant l'accouchement, avec un peu plus de lumière, c'est plus facile pour faire à bouffer. Au niveau de l'accompagnement, c'est vraiment important d'avoir un accompagnement dans le respect de ses choix. C'est-à-dire qu'avoir une doula, si on veut une péridurale qui vous rabâche en permanence, non mais prends pas la péridurale, c'est pas bon pour toi, bah c'est pas accompagné dans le respect. Sachant qu'une femme n'a pas besoin d'aide, mais d'accompagnement, de soutien, mais pas d'aide, notamment pendant l'accouchement. Elle a besoin d'amour, elle a besoin d'ondes positives, et potentiellement, elle aura besoin de silence. Ou au pire, d'une petite chanson sympa, douce, mais en fond sonore, hein. Être doula, ce sera donc être doula, et non pas faire doula. C'est important, c'est pas un métier d'action. En vrai, franchement, c'est vraiment pas un métier d'action. Par contre, on nous demande un massage, mais sinon, c'est pas vraiment un métier d'action. C'est un métier éventuellement de savoir, ça oui, mais de savoir-être. Juste être là, apprendre à être là, et juste ça. Écouter, être là, réceptionner ce qu'on nous donne, eh ben, c'est déjà énorme. Ça demande des études, et malheureusement, ce n'est pas encore reconnu, même si les organismes de formation sont en demande d'une reconnaissance, mais pour l'instant, c'est encore un métier libre, dirons-nous, mais peut-être trop libre des fois. Bref, c'est un métier qui est vraiment une personne qui sera dédiée à une autre. C'est vraiment du lien interhumain. Donc c'est le métier parfait pour moi. Voilà. La médecine française, elle est basée du coup sur la peur. Donc je reviens sur le fait que la femme a besoin d'amour, d'ondes positives, de silence. La médecine française étant basée sur la peur, ce sera agir pour éviter le pire. Même si pour ça, on doit supprimer le mieux, ça n'a pas l'air de déranger grand monde finalement. À l'heure actuelle, c'est 3 femmes sur 10 en France qui vivent une naissance traumatisante. Alors, soit avec de réelles violences et des violences gynécologiques obstétriques, hein, soit déjà par une non-écoute des besoins et des demandes. Rien que ça, déjà, ça peut être traumatisant. Du coup, il faut vraiment se rappeler qu'il est toujours possible d'avoir une naissance respectée, sans infantilisation, sans manque de respect, etc. Mais pour ça, c'est vraiment important de choisir pour soi et non pas pour l'autre, ni pour le gynéco, ni pour la sage-femme, de faire un choix pour soi, pour ses ressentis, etc. Et de même d'avoir un entourage autour de soi choisi. Donc idéalement, si on peut choisir sa sage-femme en plateau technique, en maison de naissance, etc., c'est vraiment chouette. Choisir sa sage-femme, choisir d'accoucher chez soi ou en maison de naissance. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les choix sont beaucoup faits par dépit. Parce que ben, il n'y a que ça. Et c'est vraiment important qu'on change les choses. C'est vraiment important d'aller manifester avec les sages-femmes pour la manifestation une femme, une sage-femme. Alors cette semaine, j'ai choisi un témoignage qui s'appelle Naissance du bébé de Christophine. Et cet extrait est vraiment chouette parce que tout ne commence pas forcément bien, mais ça se finit super bien. Je précise que je n'ai pas eu la grossesse de rêve. J'ai été hospitalisée à 27 semaines de grossesse pour MAP, menace d'accouchement prématuré, et transférée en urgence à la maternité. Très mauvaise expérience. J'ai été ensuite hospitalisée 4 autres fois dans ma maternité de proximité. J'ai donc vécu le dernier trimestre avec la queue. J'ai donc vécu le dernier trimestre avec la peur que bébé arrive trop tôt et devoir être séparée d'elle. Et surtout d'accoucher là où je ne voulais pas, car le côté humain n'était pas au rendez-vous. Entre-temps, j'ai été suivie par de fantastiques sages-femmes libérales. J'en ai profité pour écrire mon projet de naissance et le déposer à la maternité. Projet de naissance avec accouchement physiologique et respect au maximum de mon corps et du bébé. Arrive le 24 août 2018, première grosse contraction en pleine nuit. Je me lève à 3 h du matin et file aux toilettes, car j'ai eu la chance d'être complètement malade ce jour-là. Je sens la force des contractions. Je reste en bas seule et laisse le futur papa dormir tant que je peux gérer. Je prends un bain, puis, à force de vomir après chaque contraction, nous allons à la maternité. Il est 5 h 30, ouverte à un doigt et cela ne change pas après 1 heure d'observation. La sage-femme me dit qu'elles ont bien pris connaissance de mon dossier et mon projet, et qu'elles feront le nécessaire pour que tout se passe comme je le souhaite. Nous rentrons à la maison car nous sommes convenus avec les sages-femmes que je serai mieux chez moi dans mon environnement. Il est 6 h 30, je suis chez moi, je prends un second bain. Les contractions me font toujours vomir, mais je tiens bon avec le soutien de mon conjoint. À 10 h 30, je décide qu'il est temps d'y retourner car je sens que je ne tiendrai plus pour marcher si on m'attend davantage. Nous voilà à la maternité, col ouvert à deux. Poche intacte, bébé bas. Elle l'était depuis le 5e mois. Ça n'avance pas vraiment, je souffre beaucoup, je vomis. J'en arrive à me dire que je ne tiendrai pas et demande quand je peux avoir la péridurale. La sage-femme me demande si je veux rentrer chez moi, si je veux une chambre ou aller en salle nature dans un bain. Je réponds tout de suite, un bain. Je souhaite accoucher en salle nature de toute façon. Je me lève et vomis. Je reste donc dans ce bain de 11 h 30 à 13 h 30. La sage-femme vient me dire qu'il faut que je sorte pour qu'elle m'examine. Mais elle comprend que je ne peux pas et m'examine dans le bain, chose qu'elle n'avait jamais faite, mais elle s'est adaptée à moi, a été douce et prévenante. Toutes les sages-femmes, puéricultrices et obstétriciennes présentes ont été vraiment formidables. Je me souviens que dans mon bain, j'avais trop chaud. J'ai demandé s'il était possible d'avoir un petit ventilateur. Le papa m'éventait avec un haricot en carton dans lequel j'allais vomir. On m'a carrément apporté une climatisation. Il est 13 h 30 et je sors de la baignoire, ouverte à 4 cm, nue comme un ver, et on rigole avec la sage-femme et la puéricultrice. Je m'allonge sur le grand lit pour faire un petit monitoring, voir si ma fille va bien. J'avoue, peinée. Et je sens que ça pousse. Je dis que ça pousse fort, puis on m'annonce que je suis à 6. Il n'est pas encore 14 h et la sage-femme me dit que si je veux la péridurale, il faut lui dire dans la minute. Je leur annonce que ça pousse fort. Elle vérifie et m'annonce que je suis à dilatation complète et que c'est parti. Elle me demande quelle position je souhaite prendre pour accoucher. Je souhaite essayer d'accoucher de côté, avec une cacahuète. Elles acceptent et mettent à m'installer. Je pousse, mais je suis mal et la sage-femme peine aussi. on décide de passer en position normale tout en écoutant mon ressenti. Rien n'était prêt dans la salle. C'était juste simple et naturel. J'avais mon homme à côté de moi, sur ce grand lit rond. La sage-femme a posé ma jambe sur la puéricultrice et l'autre sur elle. Elle me demande si elle peut percer la poche. J'accepte et tout part très vite. Je pousse, mais j'ai peur. Puis elle me propose de toucher le crâne de ma fille et là je sens et je pousse pour la faire venir. Elle me propose de l'attraper, ce que je fais naturellement, et je la pose sur moi. Je peux profiter de ce moment à nous. Je me souviens que, dans le feu de l'action, l'obstétricienne m'a posé une perfusion de solution aqueuse car on n'avait rien fait de protocolaire. Je me suis excusée sans cesse en poussant car j'avais peur d'écraser le pouce de l'obstétricienne ou de crier fort. Pour autant, à 14h28, Capucine est avec nous et tout va bien. Papa reste avec elle, il doit lui aspirer un peu la bouche car elle devient un peu violette. Je reste avec la sage-femme qui m'aide à accoucher du placenta avec douceur et puis elle me fait 2 points. Elle nous laisse ensuite tous les trois dans la pièce et nous les entendons dehors dire qu'elles ont vécu un superbe accouchement, que c'était vraiment beau. Une fois qu'elles reviennent, nous les remercions pour tout. Car j'ai vraiment un super souvenir de cet accouchement. Et elle nous remercie en nous disant « Des accouchements comme ça, on en veut bien tous les jours, c'était très beau. » Je peux ensuite allaiter ma puce pour la tétée d'accueil et tout le monde laisse échapper une larme. J'ai aimé cette maternité, son équipe, leur respect et leur côté plus qu'humain. Ayant déménagé depuis, je leur ai dit que pour le prochain, je les regretterais vraiment beaucoup. Alors voilà, on va se quitter. Il est temps de vous présenter ce que j'ai apprécié et moins apprécié. Alors, le bémol, c'est qu'au niveau du placenta, elle parle du fait que si la mère en mange, il y aura une meilleure lactation, etc. Sauf qu'en fait, il y a 2 études récentes qui ont montré l'inverse. C'est-à-dire que ça ne changeait absolument rien, qu'il n'y avait pas d'effet si la mère en prenait ou pas sur la lactation, sur son hémoglobine, etc. Et c'est juste dommage, ce livre, il est bourré de photos magnifiques, elles sont vraiment splendides. Ça a été le travail de Laura Boyle, photographe. Et c'est dommage parce que la reliure du livre les coupe quand elles sont sur les 2 pages. Donc voilà, c'est un tout petit bémol, mais c'est dommage. Et par contre, voilà, ces photos sont magnifiques, ça rend le livre extrêmement vivant. Les dessins sont très très précis et permettent vraiment de comprendre facilement les thèmes abordés. Et les témoignages sont parfaits, notamment déjà parce qu'ils se passent en France. Et elle a un système de codes. Si le témoignage a un petit cœur à côté, c'est un témoignage qu'il peut falloir lire avant la naissance parce que ça va redonner confiance en le corps humain, en le corps féminin, etc. pour l'accouchement. Et les témoignages qui n'ont pas de petit cœur sont plutôt des témoignages où la naissance n'a pas forcément été respectée et qui ne seront pas forcément à lire pendant une grossesse puisque ça peut faire plutôt peur qu'autre chose. Voilà. Donc vraiment un livre que je recommande. C'était Aurore Lebec sur D'où la lire. Je vous ai présenté Naître ici, guide de la naissance respectée de Julie Toutain aux éditions Mama Édition. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter, quelle que soit la plateforme. Ça le fera connaître, ça ne peut que l'aider. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ou en message privé sur Instagram, les livres que vous aimeriez que je synthétise à l'avenir. À mercredi prochain !